Chapitre 80. Nous avons anticipé sur les événements pour en finir avec les principaux chefs pompéiens avant d'arriver à Caton. Nous avons dit comment, 3 jours après la bataille de Tapsa, il reçut par un messager la nouvelle de la défaite de Juba et de Scipion. Nous avons dit encore comment, le lendemain, 300 cavaliers fugitifs, repoussés à coups de bâtons et de pierres par la populace que Caton avait chassés hors des portes, étaient entrés dans la ville, avaient pillé les maisons les plus riches et n'étaient partis que moyennant 100 sesterces par homme que leur avait donné Caton et autant que leur avait donné Sylla. À cette nouvelle et à l'apparition des fuyards, le trouble fut grand dans la ville. Chacun, se croyant mal défendu par ses murailles, voulait fuir. Tous couraient dans les rues comme des insensés, poussant de grands cris. Mais Caton se présenta à eux et arrêta ceux qui se trouvaient sur son chemin. Enfin, il leur répéta tant et si bien que l'on exagérait toujours les mauvaises nouvelles, et que, selon toute probabilité, le mal n'était pas si grand qu'on le disait, qu'il finit par apaiser le tumulte. Caton avait formé un conseil de 300 notables, choisis parmi les Romains établis en Afrique pour affaires de négoces et de banques. On appelait ce conseil les 300. Caton les invita à se rassembler dans le temple de Jupiter avec tous les sénateurs présents à Utique et les enfants de sénateurs. À l'heure où l'assemblée se formait, il se rendit lui-même au lieu indiqué et, tandis que tout le monde encore effaré courait çà et là dans l'agitation, lui traversa la ville, calme, avec une contenance ferme et tenant à la main un registre qu'il lisait en marchant. Ce registre, c'était un état des ressources de guerre, machines, armes, vivres, soldats. Puis, quand ils furent tous assemblés, Caton adressa d'abord la parole aux 300, loua le zèle et la fidélité qu'ils avaient montrés jusque-là, les exhorta à ne pas perdre toute espérance et surtout à ne pas se séparer pour fuir chacun de son côté. À l'avis de Caton, c'était la perte de tous. « Si vous restez unis, leur dit-il, César vous respectera davantage. » Et dans le cas où vous lui demanderez merci, il vous pardonnera plus volontiers. Toutefois, examinez ce que vous avez à faire. Je vous laisse les maîtres absolus de votre propre conduite. Réfléchissez, prenez une résolution. Je ne blâmerai aucun des deux parties. Si vos sentiments changent avec la fortune, j'attribuerai ce changement à la nécessité. Voulez-vous faire tête au malheur, braver le péril, défendre la liberté ? Je louerai, j'admirerai votre vertu et je m'offre à vous servir de chef, à combattre avec vous. Jusqu'à ce que vous ayez éprouvé la fortune dernière de la patrie, et à propos de patrie, votre patrie à vous, ce n'est ni Adrumète ni Utique, c'est Rome qui, plus d'une fois par sa propre grandeur, s'est relevé des chutes bien autrement funestes. Il vous reste plusieurs chances de salut, plusieurs motifs de sécurité. Le principal, c'est que vous faites la guerre à un homme qui agit, non d'après sa volonté, mais sous la pression des circonstances, et que ses affaires entraînent à la fois de tous côtés. L'Espagne, révoltée contre César, a embrassé le parti du jeune Pompée. Rome elle-même n'a pas encore complètement accepté un joug auquel elle n'est pas accoutumée. Elle se cabre contre la servitude, prête à se soulever au moindre changement. Ne fuyez pas le danger, mais au contraire, instruisez-vous par l'exemple de votre ennemi lui-même qui, en vue de commettre les plus grandes injustices, prodigue tous les jours sa vie sans avoir comme vous pour terme d'une guerre dont le succès est incertain ou une vie de félicité si vous êtes vainqueur ou la plus glorieuse mort si vous succombez dans l'entreprise. Au reste, délibérez-en entre vous en priant les dieux que, pour prix de la vertu et du zèle que vous avez fait paraître jusqu'à présent, ils conduisent à bonne fin les résolutions que vous avez prises. » Ainsi parla Caton. Ce ne fut pas trop de ses discours et surtout de son exemple pour agir sur les esprits de quelques-uns de ses auditeurs. Mais le plus grand nombre, cependant, à la vue de cette noblesse de cœur, de cette humanité et de cette intrépidité, oublia le danger de la situation et regarda Caton comme un chef invincible. Tout pouvoir lui fut donc remis. « Mieux vaut, dirent-il, mourir en obéissant à Caton que de sauver notre vie en trahissant une si parfaite vertu. » Un des 300 proposa de rendre la liberté aux esclaves et presque toute l'assemblée se réunit à cet avis. Mais Caton s'y opposa, lui. « Cela, dit-il, n'est ni juste ni légitime. Si leurs maîtres eux-mêmes les affranchissent, je recevrai dans ma troupe, et cela bien volontiers, ceux qui seront en âge de porter les armes. » Aussitôt, plusieurs se levèrent, disant « Nous donnons la liberté aux nôtres. »« C'est bien, dit Caton, faites enregistrer les déclarations. » Et les déclarations furent enregistrées. Sur ces entrefaites, Caton reçut des lettres de Juba et de Scipion. Juba s'était réfugié dans les montagnes, n'ayant point encore tenté sa fatale entreprise sur Zama. Il s'informait à Caton de ce que lui, Caton, était résolu de faire. « Si tu dois abandonner Utique et me venir rejoindre, écrivait-il, je t'attendrai. Si tu veux y soutenir un siège, j'irai t'y joindre avec une armée. » Quant à Scipion, il était à l'ancre derrière un promontoire, non loin d'Utique, et il attendait là pour savoir quel parti prendrait Caton. Caton retint les messagers qui avaient apporté ses lettres jusqu'à ce qu'il fût bien certain du parti qu'adopteraient les 300. Mais bientôt le conseil s'était divisé en deux camps. Les sénateurs de Rome, qui, à quelque prix que ce fût, voulaient aller s'asseoir sur leurs chaises curules, étaient pleins d'enthousiasme et prêts à tous les dévouements. Ceux-là avaient, à la suite du discours de Caton, affranchi et enrôlé leurs esclaves. Quant aux autres, c'étaient des marchands, des spéculateurs trafiquant sur la mer ou faisant la banque et ayant leur principale richesse dans leurs esclaves. Ceux-là oublièrent bien vite le discours de Caton et le laissèrent filtrer à travers leur esprit. « Il est, dit Plutarque, des corps qui perdent la chaleur aussitôt qu'ils la reçoivent et qui se refroidissent dès qu'on les éloigne du feu. Tels étaient ces hommes échauffés par la présence de Caton. » Tant que Caton était là, qu'il l'avait sous les yeux, qu'il parlait, qu'il les encourageait, tout allait à merveille. Mais, livrés à leurs propres réflexions, la crainte que leur inspirait César chassait de leur cœur tout le respect qu'ils avaient pour Caton et pour sa vertu. En effet, voici ce que disaient ces hommes. En résumé, que sommes-nous par nous-mêmes et à qui refusons-nous d'obéir? N'est-ce pas en César que se rencontre aujourd'hui toute la puissance romaine? Aucun de nous n'est un Pompée, ni un Scipion, ni un Caton. Nous sommes des marchands qui n'ont d'autre renom que celui d'honorables trafiquants. Nous n'avons, en politique, aucune place ni prise ni à prendre. D'où vient donc que, dans un temps où les hommes cèdent à la terreur et se ravalent plus qu'ils ne devraient, nous choisissions ce temps, nous autres chétifs, pour combattre en faveur de la liberté de Rome, prétendant, insensés que nous sommes, soutenir dans Utique la guerre contre celui devant qui Caton et le grand Pompée ont pris la fuite en lui abandonnant l'empire du monde? Que faisons-nous? Nous affranchissons nos esclaves pour combattre contre César, et nous-mêmes, pauvres esclaves que nous sommes, il ne nous reste de liberté que ce qu'il plaît à César de nous en laisser. Revenons donc d'une pareille folie. Estimons-nous pour ce que nous sommes, et pendant qu'il en est temps encore, ayons recours à la clémence du vainqueur et envoyons-lui demande de nous recevoir en grâce. » Et remarquez bien que c'étaient les plus modérés qui parlaient ainsi. Les autres ne disaient rien, mais n'attendaient que l'occasion de mettre la main sur les sénateurs et de les livrer à César. Ainsi, les plus honnêtes de ces dignes marchands, qui en temps de paix eussent regardé comme une honte de ne pas faire honneur à leurs engagements, les plus honnêtes étaient ceux qui ne rêvaient qu'une lâcheté. Caton connaissait les hommes auxquels il avait affaire. Aussi ne voulut-il pas exposer Juba et Scipion au danger que couraient les sénateurs et qu'il courait lui-même. Car rien ne lui prouvait que, si César faisait de la remise de Caton une condition de sa clémence, il ne le livrerait pas comme il se proposait de livrer les autres. Il leur écrivit donc à tous deux de se tenir éloignés d'Utique. Ce fut alors que Scipion résolut de gagner l'Espagne et Juba de retourner dans sa capitale. On sait ce qu'il advint de tous deux. Pendant ce temps, outre les quelques cavaliers que nous avons vus piller Utique en passant, et ne s'éloigner qu'en emportant 100 sesterces par homme à Caton et autant à Sylla, un corps de cavalerie assez considérable était venu chercher un refuge sous les murs d'Utique. Instruit par les façons pillardes des premiers, Caton leur avait fermé les portes de la ville. Aussi lui députèrent-ils 3 d'entre eux. Les uns voulaient aller trouver Juba, les autres demandaient à se réunir à Caton, et les 3 messagers avaient mission de consulter Caton sur ce qu'ils devaient faire. Il y avait enfin parmi eux un troisième parti qui, sachant les habitants d'Utique partisans de César, craignait d'entrer dans la ville. Il demandait donc à Caton de bien vouloir se rendre auprès d'eux. Mais Caton était dans la situation de Dante à Florence qui, obligé d'envoyer quelqu'un à Venise, disait « Si je reste, qui ira ? Si j'y vais, qui restera ?» Enfin, il chargea Marcus Rabrius de rester et de veiller sur les 300. Lui prit les sénateurs, sortit de la ville avec eux et se rendit à la conférence. En son absence, Marcus Rabrius devait recevoir les déclarations d'affranchissement, user de douceur avec tout le monde et ne forcer personne. Les officiers du corps de cavalerie attendaient Caton avec impatience. Ils sentaient bien qu'en cet homme était leur dernier espoir. Lui, de son côté, avait fort compté sur eux. Il les conjura, ayant un choix à faire entre lui et Juba, de choisir Caton. Ayant parti à prendre entre Rome et Zama, de choisir Rome. Il les conjura surtout de se grouper autour des sénateurs, qui, s'ils n'étaient pas une force matérielle, étaient un pouvoir politique. Ils pouvaient entrer avec lui dans Utique, ville aux fortes murailles et difficile à prendre, ville garnie de vivres et de munitions pour plusieurs années, et la tenir contre César, comme Marseille, qui, n'ayant pas toutes ces conditions, avait tenu. Les sénateurs leur firent les mêmes prières, les larmes aux yeux, et les officiers se retirèrent pour aller conférer avec leurs soldats de ce qui venait d'être dit. En les attendant, Caton s'assit sur une éminence avec les sénateurs. Ils y étaient à peine que l'on vit un cavalier qui arrivait à fond de train. C'était Marcus Rabrius qui venait annoncer que les 300 s'étaient révoltés et jetaient le trouble dans la ville dont ils soulevaient les habitants. Cette révolte, c'était la perte des sénateurs. Aussi, ceux-ci commencèrent-ils à se lamenter et à supplier Caton. Caton, dans cette tempête immense, était la seule étoile restée pure et lumineuse, et chaque naufragé ramait à lui. Il renvoya Marcus Rabrius à Utique, le chargeant en son nom à lui, Caton, de dire aux 300 qu'il les priait d'attendre son retour avant de prendre une résolution. Marcus Rabrius partit. Sur ces entrefaites revinrent les officiers. « Nous n'avons pas besoin de nous mettre à la solde de Juba ou de devenir des Numides, en supposant même que nous suivions Juba. De plus, nous ne craignons point César tant que nous serons commandés par Caton. Mais il nous semble dangereux de nous enfermer dans une ville avec les Uticiens, peuple punique et dont la fidélité nous est suspecte. Ils sont tranquilles pour le moment. Les officiers ignoraient ce que venait de dire Rabrius. Ils sont tranquilles pour le moment. » Mais dès que César paraîtra, ils l'aideront à nous attaquer ou nous livreront à lui. Maintenant, si Caton désire que nous nous engagions sous ses ordres, il faut qu'il nous abandonne la ville d'Utique pour en faire ce que nous voudrons. Et nous ne lui cachons pas le moins du monde ce que nous en ferons. Nous en chasserons ou égorgerons jusqu'au dernier habitant. Alors seulement, nous nous croirons en sûreté derrière ses murailles. Ces propositions, Caton se l'avouait à lui-même, étaient celles que devaient imposer des hommes jaloux de leur sûreté. Mais elles étaient barbares. Cependant, Caton, avec son calme ordinaire, répondit qu'il en délibérerait avec les 300 et rentra dans la ville. Mais, à son retour, les 300 avaient jeté le masque. Ils s'étaient assurés des dispositions des habitants et, sans détour ni défaite, ils déclarèrent nettement qu'ils ne combattraient pas César. Quelques-uns même avancèrent à mi-voix qu'il serait de bonne politique de mettre la main sur les sénateurs et de les retenir jusqu'à l'arrivée de César. Mais Caton ne tint aucun compte de cet avis, qu'il fit semblant de ne pas entendre, et peut-être même, comme il était sourd, ne l'entendit-il point. Cependant, on vint lui annoncer que ses cavaliers se retiraient. C'était un autre malheur. Il craignait que, les cavaliers partis, les 300 ne se livrassent à quelque violence contre les sénateurs. Il se leva donc au milieu du conseil, monta à cheval et courut après les cavaliers. Les cavaliers parurent heureux de le revoir, le reçurent avec des démonstrations de joie, l'exhortèrent à se sauver avec eux. Caton secoua la tête. Il avait pour lui-même une autre résolution. Les larmes aux yeux et leur tendant les mains, il les supplia de venir en aide aux sénateurs. Mais comme il partait, cependant, malgré ses prières, il alla jusqu'à s'attacher aux brides de leurs chevaux et à les tirer à lui pour les ramener vers Utique. Et en effet, quelques-uns eurent pitié et cédèrent. si bien qu'il obtint d'eux qu'ils restassent là un jour encore pour assurer la retraite des sénateurs. En conséquence, il les ramena avec lui dans la ville, plaça les uns aux portes, les autres à la citadelle. Les 300 eurent peur. Ils envoyèrent aussitôt prier Caton de venir auprès d'eux. Mais de leur côté, les sénateurs, se serrant autour de lui, le prièrent de ne pas les abandonner, déclarant que ce serait abandonner Caton lui-même que de le livrer à ses traîtres et à ses perfides, lui, leur protecteur et leur soutien. Et en effet, dit Plutarque, en ce moment, la vertu de Caton était universellement reconnue, et tous ceux qui s'étaient réfugiés dans Utique avaient pour lui le même amour et la même admiration. Car jamais on n'avait aperçu dans sa conduite la moindre trace d'artifice et de fausseté.